Chapitre 13. Tandis que nous étions assis tous deux sur cette souche d'arbres moussus, je m'obstinais à croire qu'il se trompait. J'essayais vainement d'imaginer ma mère en train de déchirer sa robe de chambre, de gifler des infirmières ou de jeter par terre ne fût-ce qu'une bobine de fil. Cela peut paraître fou, mais il me vient brusquement à l'esprit que le docteur Marlowe était en train d'inventer cette abominable histoire pour me garder dans sa famille. Il n'avait pas de fils, j'étais un garçon agréable, raisonnable. Si ça se trouve, sa femme et lui avaient ourdi un complot pour m'enlever à ma mère et la faire enfermer à son tour. Ou alors Mrs. Marlowe n'était pas au courant des plans de son mari, ou alors... La tête me tournait, je me levai. Vous allez sûrement me trouver ridicule d'insister, mais je ne connaîtrai pas de repos tant que je ne l'aurai pas vu. À son tour, il se leva. Non, Daniel, j'admire ton courage, mais attends-toi à vivre une journée épouvantable. Elle l'est déjà, répondis-je d'un ton lugubre. Ayant repris notre marche dans la hêtraie, nous arrivâmes bientôt à un chemin de terre que nous empruntâmes. Enfin, à travers la forêt, de plus en plus clairsemée, j'aperçus un édifice sombre et sinistre. C'est là ? Le docteur acquiesça. Devant nous se dressait une pancarte de guingouin indiquant « Asile de Halston ». Après avoir longé les écuries et les dépendances, puis franchi un porche en pierre, nous traversâmes une cour pavée hérissée de mauvaises herbes. Nous parvînmes devant une lourde porte garnie de clous. Le docteur tira une cloche. Je restai comme pétrifié. Très loin, à l'intérieur, il eut un bruit métallique. Il se passa une éternité avant que je ne retentisse les bruits de pas. La porte s'ouvrit enfin, et une femme replète en uniforme bleu marine salua assez aimablement le docteur. « Ah, vous revenez voir votre patiente ?» Elle me vit alors, et son expression changea. « C'est... oui, c'est le fils de Mrs. Cunningham. » Cette information sonna comme un signal. L'infirmière en chef me regarda de la tête aux pieds, puis se détourna et dit « Je vous demande de patienter un instant. »« Pourquoi faire ?» me demandai-je. « Pour se hâter d'aller prévenir les autres ?»« Vite, déchirez les jupes de Mrs. Cunningham, jetez de la vaisselle cassée par terre dans sa chambre et piquez-la avec des aiguilles pour la faire hurler. » Ou alors le docteur Marlowe ne m'avait dit que la stricte vérité, et par égard pour moi, l'infirmière en chef voulait me précéder, obliger ma pauvre mère folle alliée à s'habiller décemment et balayer les détritus de sa chambre, voire peut-être essuyer ses joues barbouillées de larmes pour m'épargner un trop grand choc. « Nous allons attendre ici que l'infirmière en chef vienne nous chercher, » déclara le docteur Marlowe. Visiblement, il connaissait bien l'établissement, car il me fit entrer dans une salle d'attente. Au-dessus d'une cheminée pleine de cendres était accrochée une peinture représentant des collines bleues surmontées d'un ciel nuageux. « Assieds-toi, Daniel. » Nous attendîmes en silence jusqu'au moment où une infirmière passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. « Prêt ?» Nous la suivîmes dans un couloir. Je ne m'étais jamais baigné dans une rivière et n'avais donc jamais ouvert les yeux sous l'eau. Pourtant, j'associais spontanément le vert glauque et hideux des murs à l'idée de noyade. De chaque côté s'alignaient des portes. À gauche, certaines étaient entr'ouvertes. Par l'une d'elles, je vis une infirmière vider un pot de chambre dans une rigole d'évacuation. Suivait encore une pièce occupée par un bureau en désordre. De l'autre côté du couloir, en revanche, toutes les portes qui avaient des montants renforcés étaient fermées avec des verrous tirés, et l'on entendait provenant de l'intérieur des bruits lugubres, murmures, grognements, sanglots. Une bouffée de colère monta en moi. « ma mère est enfermée comme ça ?»« Chut, Daniel !» Je me mordis les lèvres et continuai à marcher. Nous allions tourner l'angle du couloir lorsque je mis le pied sur ce que je pris pour une tache d'huile coulant sous une porte. Le docteur Marlowe s'arrêta net. « Malheur !» Il me prit par le bras et me fit entrer de force dans la pièce d'en face. « Daniel !» Il se passe une chose affreuse. Tu ne bouges pas d'ici avant que je vienne te chercher, tu m'entends ? Je ne comprenais pas pourquoi il prenait cela au tragique. Une fois, ma mère avait répandu de l'huile en voulant graisser les gonds de la maison de poupée. Et elle avait juste... Le docteur me dévisagea comme si j'étais un demeuré. Alors je regardai de nouveau par terre. De l'huile rouge, du sang. Chapitre 14. Je crois que je n'avais jamais vu de sang, sauf sur les images de mes livres d'aventure. Effaré, je me laissai pousser de l'autre côté du couloir. La porte claqua derrière moi et j'entendis le docteur appeler. « Une infirmière, quelqu'un, vite ! Venez dans la cellule de James Harper !»« Sa cellule ?» À ce seul mot, mon cœur cessa de battre. J'entendis ensuite le verrou grincer lorsque le docteur le tira, puis des pas précipités. Il y eut un énorme claquement métallique quand la porte se referma derrière lui, et les infirmières venues à la rescousse. Et tout à coup, la peur et le doute s'insinuèrent en moi. Et si le docteur m'avait menti, si le sang que j'avais vu couler sur le carrelage était celui de ma mère? Avant même que les voix ne se fussent tues, je retournai en hâte dans le couloir pour écouter. J'entendis le docteur dire « Allons, calmez-vous, Jim, et soyez courageux. Il va falloir du temps pour recoudre ça, et ce sera douloureux. » Une voix masculine grogna, puis le docteur reprit « Oh, Jim, pourquoi vous obstinez-vous à tricher avec le bon Dieu? Pourquoi chercher à raccourcir le peu de temps qu'il veut bien vous accorder encore sur terre ?» Mon cœur cessa de battre la chamade, et ma respiration s'apaisa. Soulagé, je retournai dans la pièce où j'étais censé attendre, et pour la première fois, je regardai autour de moi. Je me trouvais dans une sorte de bureau dont deux murs étaient occupés par des classeurs en bois, tous soigneusement étiquetés. A, Anne, 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 AV, BE, et ainsi de suite, tiroir après tiroir, sur toute la longueur des murs. Je m'approchai de l'un d'eux. CE, CU. Ce petit meuble ne contenait rien qui pût m'intéresser, j'en étais convaincu. Ma mère était soignée dans cet asile, mais s'il existait un dossier la concernant, les médecins devaient être en train de l'étudier de près pour tenter de comprendre quels événements étranges l'avaient amenée là par erreur. Donc ce n'était pas une faute que de jeter un coup d'œil. Je tirai la jolie poignée de laiton. Le classeur sortit d'un seul coup. Et là, tout au fond, un dossier fraîchement étiqueté me sauta aux yeux. Cunningham, Liliana. Je le sortis et le posai sur le bureau. Je risquais d'avoir des ennuis, je le savais, mais désespérée comme j'étais, je n'avais rien à perdre. J'essayai de me rassurer en me disant que quand le docteur Marlowe reviendrait, j'aurais le temps de refermer le dossier et de le poser à l'envers sur le bureau. Sans doute ne le regarderait-il même pas. Assis dans le grand fauteuil en cuir, je le feuilletai rapidement. Liliana Cunningham, âge, taille, poids, couleur de cheveux, puis des pages et des pages consacrées à la tension et à la température, des comptes rendus des menus qui lui avaient été proposés, l'espace destiné à noter ce qu'elle avait effectivement mangé avait été laissé en blanc, avait-elle décidé de se laisser mourir de faim? Venait ensuite un rapport manuscrit sur son état, très agitée, délirante, irrémédiablement obsédée par une idée fixe, persuadée qu'elle doit protéger son fils d'une ancienne malédiction qui le menace, emprisonnée seulement pour son bien, impossible de la rassurer ou de la convaincre. Et enfin, sur la dernière feuille, volante, parents proches. Dans un sommeil agité, la patiente ne cesse de parler de quelqu'un dont les infirmières pensent qu'il s'agit d'un frère. Toutefois, à l'état de veille, elle refuse de divulguer son nom, et même de dire quoi que ce soit sur sa famille. Ainsi, c'était possible. Le souvenir tronqué qui m'était revenu en mémoire n'était pas un rêve, mais bien une vraie réminiscence. J'avais donc un oncle. J'entendis le poignet de la porte tourner. Je refermai vivement le dossier et fis pivoter le fauteuil pour faire croire que j'avais passé tout ce temps à regarder par la fenêtre. Le docteur Marlowe entra en baissant ses manches. « Voilà qui est fait, Dieu merci, » dit-il. Il me regarda attentivement lorsque je pivotai dans le fauteuil pour lui faire face. Se méprenant sur mon désarroi, il me taquina gentiment. « On se partage le travail à ce que je vois. Moi je recous les plaies et toi tu trembles. » À peine avait-il dit cela qu'il voulut se reprendre. « Excuse-moi, Daniel, avec tout ça j'avais oublié pourquoi tu étais ici avec moi. » À tout autre moment, le fait qu'il m'eût presque confondu avec un fils ou un collègue de travail me réconfortait. Mais ce matin-là, j'étais obnubilée par ma mère, agitée et délirante. Le docteur Marlowe s'approcha et me prit par l'épaule. « Tu n'as pas changé d'avis? Personne ne t'en blâmerait, tu sais, grand Dieu, non. » Je secouai la tête. Puisqu'il était impossible de rassurer ou de convaincre ma pauvre mère, j'avais une raison de plus de souhaiter la voir. Mon éducation était peut-être pleine de lacunes, mais j'en avais appris suffisamment pour savoir que personne ne peut être menacé par de vieux démons. La malchance et les erreurs que l'on commet dans la vie sont deux choses susceptibles de générer des problèmes et de la souffrance. Mais ni les problèmes ni la souffrance ne peuvent résulter de quelque chose d'inhumain qui resterait tapis dans l'ombre pour vous tomber dessus le moment venu. Ma mère a perdu la raison, pensais-je, mais en me présentant à elle la tête haute, calme, bien portant, peut-être pourrais-je la libérer de sa folie. Peut-être retrouvera-t-elle ses esprits. Non, je n'ai pas changé d'avis, je veux la voir. Le docteur Marlowe s'arrêta devant la première porte après l'angle du couloir. Alors qu'il allait frapper, il eut soudain l'air inquiet. Il se retourna vers l'infirmière en chef qui nous rejoignait en hâte, lui apportant sa blouse qu'il avait oubliée. « Pourquoi le verrou est-il tiré ? » demanda-t-il. « Je vous ai ordonné de toujours laisser quelqu'un avec elle dans la chambre pour l'aider à surmonter ses angoisses. » « C'est ce que nous avons fait, docteur, » expliqua-t-elle. « Mais quand vous avez appelé une infirmière, Sarah, qui vous a entendu la première, s'est précipitée en refermant le verrou derrière elle. Mrs. Cunningham est restée seule juste le temps que vous recousiez le bras de James Harper. Le docteur hocha la tête et déverrouilla la porte. Il va falloir que tu sois courageux, mon garçon, murmura-t-il avant que nous n'entrions dans la chambre. Mais il ne pouvait même pas imaginer à quel point il fallait l'être pour voir par-dessus une épaule l'ombre décharnée de votre mère, le cou brisé, pendu à un barreau de la fenêtre. Elle avait confectionné une corde avec un nœud coulant, en tressant de ses doigts habiles les lambeaux de dentelle qui pendaient de sa robe déchirée. Je ne me rappelle pas avoir été entraînée dehors, ni avoir vomi le petit déjeuner que Mrs. Marlowe avait tenu à me faire avaler pour attaquer cette journée. Je ne me souviens pas d'avoir été conduit le long de ce sinistre couloir sans soleil et introduit dans une autre pièce où l'on me fit ingurgiter quelques gouttes de cordial. Je ne me souviens pas que l'on m'ait poussé dans une charrette qui passait par là, reconduit à la maison, fait prendre un somnifère et mis au lit. Je me souviens seulement des choses que j'ai entendues. Sarah, l'infirmière, hurlant de chagrin et de culpabilité, d'avoir laissé à sa patiente l'opportunité de mettre fin à sa misérable vie. L'infirmière en chef, pleurant à chaudes larmes en expliquant au docteur Marlowe combien ma mère était déterminée à ne pas me voir. « Comment pourrais-je regarder mon fils en face ? » criait-elle à longueur de journée, « puisque vous m'empêchez de le protéger. » Et le dernier souvenir que j'ai de cette journée est d'avoir entendu le docteur Marlowe chuchoter à sa femme pendant qu'il veillait à mon chevet. Le pauvre garçon sera poursuivi toute sa vie par ce souvenir atroce, sa mère pendue au barreau de la fenêtre, les yeux exorbités, aussi maigres que les personnages de la maison de poupée.